Bonjour et bienvenue sur mon podcast Place aux jeunes, un podcast qui donne la parole aux jeunes sur divers sujets sociétaux. Merci d'être présent, Pierre-Baptiste. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, donner ton âge, tes études, en quelle année tu es également ?
Bonjour à tous, moi je m'appelle Pierre-Baptiste, j'ai actuellement 21 ans et je suis en école d'ingénieur, donc à l'INSA Rennes, à Beaulieu, ici.
Ok. Tu es aussi réserviste. Est-ce que tu pourrais nous dire concrètement ce que c'est qu'un réserviste ? Qu'est-ce que c'est d'être réserviste en France ?
Alors en France, être réserviste, c'est quand on ne veut pas directement rentrer dans l'armée active, donc quand on a un métier à côté, mais qu'on veut quand même toucher à ce domaine-là, découvrir et également s'engager un peu pour son pays. Et donc, c'est un peu avoir cette double casquette, c'est-à-dire être civil et en même temps être militaire en tant que bénévole, en fait.
Ok, très bien. Et factuellement, pour que tout le monde ait une idée, quelles sont les différentes missions que tu effectues en tant que réserviste, du coup ?
Alors, du coup, la mission principale du réserviste, c'est notamment les missions sentinelles. Donc, à chaque fois qu'en fait, on va dans des villes et qu'on voit des militaires qui sont en trio, donc avec des armes, etc., c'est majoritairement des réservistes. Entre guillemets, des civils. Enfin, qui ont quand même une certaine formation. Donc ça, c'est une des missions principales. À chaque fois, c'est quand même sur le territoire français. Il y en a certains qui partent en OPEX, mais c'est quand même assez rare. Et après, il y a tout ce côté formation qui rentre en jeu. Donc il y a des week-ends de formation. Ça peut durer 2-3 jours, même parfois une semaine. Et donc, c'est formation combat, apprentissage, tout ça en cas de crise majeure, par exemple.
Et comment ça se fait que tu es réserviste ? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine-là ? Et puis, est-ce que c'était vraiment une passion chez toi ? Tu t'es dit, moi, à 20 ans, je vais être réserviste, ou t'en as entendu parler dans ton entourage ?
Moi, depuis que je suis tout petit, le milieu de l'armée, ça m'intéresse beaucoup. Genre, je regardais plein de vidéos de tests de sélection sur YouTube quand j'étais petit et tout. Mais pas de là à m'engager vraiment dans l'active, parce que c'est vrai que les sacrifices que ça engendrait, ça ne m'attirait pas trop, comme la vie de famille ou même encore le salaire, le fait de ne pas être là souvent, etc. J'ai appris par mon beau-frère qu'il y avait cette option de réserve. Il y a notamment, lui, il l'a fait et ses deux frères l'ont fait également. Donc ça m'a un peu poussé à y aller. En plus, j'avoue que j'ai appris que c'était payé, donc je me dis, en tant qu'étudiant, si c'est payé, en plus, c'est pas plus mal. Et donc, je me suis lancé et voilà.
Et justement, quand tu t'es lancé, quelle formation tu as effectuée c'était quoi ?
On commence par juste postuler sur le site de manière très classique. Et ensuite, on est convoqué pour 2 semaines de formation initiale. Donc, tout réserviste est passé par là. C'est 2 semaines assez intenses où on est... entre futurs réservistes, et donc il y a des étapes à valider, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'office réserviste. Il y a notamment tout ce qui est genre épreuve de tir à valider et aussi épreuve théorique, avec connaissance et tout ce qui est genre transmission, cartographie, etc. Donc ça, c'est vraiment l'étape clé pour devenir réserviste.
Donc tout le monde, en fait, tout civil, tout le monde pourrait candidater, mais effectivement, c'est soumis à une espèce de concours, épreuve, quoi.
C'est ça. Après, bien sûr, faut avoir la nationalité française et au niveau des âges, c'est minimum 17 ans. Et après, je crois qu'il n'y a pas d'âge limite.
Okay.
Dans ma formation, ça allait 17 ans à 45 ans, je crois.
Très bien. Et pour continuer, la formation, comment elle vous prépare dans vos missions ?
La formation, c'est un très gros condensé. C'est-à-dire qu'on apprend à peu près les mêmes choses que les militaires d'active, juste c'est condensé vraiment en 2 semaines. C'est-à-dire que sur le plan théorique, c'est très dense, alors qu'à l'inverse, sur le plan physique, c'est quand même relativement light. Il faut quand même avoir une bonne condition physique. Mais je veux dire, on n'est pas, comme on peut le voir dans les reportages ou quoi, on n'est pas poussé à bout dans nos retranchements, à la fatigue, etc. Donc c'est vraiment, on a beaucoup de cours théoriques, notamment au maniement de l'arme, etc. Et voilà, c'est comme ça que vraiment qu'ils nous forment.
Ok. Comment se déroule une journée type lors d'une mission, d'une formation ? Est-ce qu'il y a diverses formations sur le port d'armes, la sécurité, peut-être même liées au digital ? Après, on va en parler peut-être un peu après. Comment ça se passe ?
Il y a bien sûr un point d'honneur sur la sécurité, parce que c'est vrai que c'est... Souvent, on entend des accidents, etc., et ça fait tout de suite polémique, etc. Donc, la sécurité, c'est vraiment le point essentiel. On drill, comme ils appellent ça. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'on ait une certaine mémoire musculaire, sur tout ce qui est maniement de l'arme, etc., notamment pas pointé sur les autres ou dès qu'il y a un incident de tir ou quoi. Donc ça, c'est vraiment le côté primordial. Ouais.
D'accord. Peut-être que là, dans les auditeurs qui peuvent nous écouter, ils se disent 2 semaines pour devenir réserviste et pouvoir du coup avoir une arme, voilà, se promener dans la rue avec une arme, etc. C'est peut-être un peu too short. Est-ce que vous êtes continuellement formé? Est-ce que, voilà, tu l'as dit, il y a des fois des erreurs, des fois des problématiques, enfin des accidents. Comment ça se passe tout cela vis-à-vis de la formation?
Je trouve quand même qu'on est vraiment très très bien formé en 2 semaines, et puis surtout, comme je l'ai dit, c'est un test, c'est-à-dire que bien entendu il ne laisserait jamais quelqu'un qui est relativement approximatif sur ses maniements, etc., devenir réserviste. Donc c'est vraiment, il regarde vraiment minutieusement comment on fait, et puis surtout les premières missions qu'on fait, on est vraiment encadré par des supérieurs qui sont là et qui nous yotent au doigt et à l'œil, quoi. Donc après il y a une progression dans la hiérarchie en fonction de si on est un bon réserviste, tout simplement, quoi.
Ça marche. On va continuer davantage sur le sujet en abordant notamment ton expérience de réserviste et l'influence que ça pourrait peut-être, qui a peut-être eu sur toi, sur ta vision de la société ou de la citoyenneté en France.
Bonne question.
Ça a peut-être rien changé. Hein.
En vrai... du coup, j'ai vraiment découvert un peu, ça peut être très cliché, mais tout l'univers, parce que c'est vrai que je trouve qu'en tant que civil, on est quand même beaucoup dans l'extérieur. Enfin, notamment moi, avant, j'avais aucune idée que ceux qui patrouillaient dans les rues, c'était des réservistes. Donc, du coup, moi, déjà, j'ai trouvé ça assez impressionnant au début. Je me dis que, entre guillemets, des simples réservistes devaient garantir la sécurité nationale. Après, moi, de mon point de vue, c'est vrai que je trouve ça assez fort qu'il y ait plein de gens qui s'engagent. Et du coup, je trouve ça assez bien qu'il y ait cette option de réserviste. Ça peut du coup ouvrir la porte à des civils pour s'engager dans l'armée. Et du coup, ouais, je trouve ça assez fort le fait que, notamment dans la formation, il y ait vraiment des jeunes comme vraiment des plus vieux qui soient là et qui soient motivés pour, encore une fois, pour garantir la sécurité. Ça veut dire que la France, c'est vraiment quelque chose pour eux. Donc moi, je trouve ça vraiment, ce côté-là, ça m'a vraiment plu, ouais.
Écoute, c'est noté. Est-ce que tu peux nous décrire une mission qui t'a particulièrement marqué?
Du coup, comme je disais, j'en ai fait qu'une mission pour l'instant, parce que je suis réserviste que depuis les grandes vacances de l'année dernière, depuis août de l'année dernière. Et donc, c'était la mission du Triomphe. Donc, le Triomphe, c'est une cérémonie de fin d'année à l'école Saint-Cyr Couette-Quidan. Donc, là où ils forment les officiers de l'armée, oui. Et donc c'était une mission d'encadrement principalement, c'est-à-dire que c'est une grosse fête de fin d'année avec trois galas dans la même soirée. Et donc du coup ils ont appelé les réservistes pour vraiment garder l'événement, pour faire des rondes, etc. Et donc ça m'a principalement marqué déjà par le fait que ça suivait directement ma formation, donc niveau fatigue j'étais quand même déjà bien bien amoché. Et du coup ça m'a marqué dans le sens où même en tant que réserviste il faut quand même qu'on ait une sacrée condition physique, parce que on a quand même fait en tout et j'étais pas le pire, j'ai dû faire genre 12 heures de créneaux avec des créneaux de, je crois j'ai fait une fois j'ai enchaîné 8 heures je crois, donc ça fait assez mal aux pattes, d'autant plus qu'on a casque lourd, gilet pare-balles, armes, et donc sur ce point là ça m'a assez marqué. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est vraiment le côté organisation qu'ils ont. Parce que du coup, chacun a son poste, chacun respecte son poste. Il y a vraiment des rotations qui se font de manière super fluide. Et donc du coup, la sécurité, c'est vraiment assez, assez bien respecté, quoi.
Ok, ça marche. Maintenant, effectivement, donc tu as dit que tu es réserviste, mais tu es aussi étudiant à l'INSA, comme tu disais au début. En quoi ton engagement de réserviste est-il compatible avec ton projet pro?
Comme ça, je dirais qu'il n'y a pas tellement de compatibilité. Après, je pense que ça peut s'adapter à tout domaine professionnel. C'est-à-dire que les valeurs qu'on nous inculque à l'armée, c'est vraiment utile pour le monde supérieur. Après, je ne suis pas encore dedans, je suis encore étudiant. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le côté, c'est tout bête, mais le côté respect de l'autorité, etc., je pense que c'est toujours utile dans le milieu supérieur. Et après, en dehors de ça, je trouve que aussi le côté humain, tout simplement, le côté respect d'autrui qu'il y a vraiment à l'armée, et le côté aussi cohésion, je pense que ça m'aidera vraiment dans les années futures.
En tout cas, ça t'aspire un peu le monde de l'entreprise, quoi.
C'est ça, tout ouais. à fait.
D'accord. Et on peut se demander aussi comment tu concilies ce double projet, on va dire.
Au niveau du...
Réserviste et étudiant à l'INSA, en formation.
Bon, moi, je trouve ça relativement simple. C'est-à-dire qu'en général, les missions de formation, ce que moi, du coup, j'ai principalement fait, ça se passe les week-ends. Donc, du coup, bah, je me rends disponible les week-ends. Après, c'est vrai que j'ai pas encore fait vraiment de mission Sentinelle. Parce que souvent, les missions Sentinelle, ça se fait sur plusieurs mois. Donc, tu peux faire un mois ou même deux mois de Sentinelle dans certaines villes. Et donc là, moi, d'un point de vue timing, je sais que je pourrais pas. Parce que bah, j'ai jamais autant de disponibilité. À la rigueur, l'été dernier, mais c'était au moment où j'avais fait ma formation. Mais du coup, c'est vrai qu'il faut quand même avoir un minimum de temps. Je sais pas, enfin, moi, je sais qu'il y en avait à la réserve qui faisaient des années de césure pour pouvoir notamment. Faire pas mal de sentinelles, etc. Mais d'un point de vue timing, c'est vrai que du coup, c'est un peu dur.
Ok. Je peux te poser la question, c'est est-ce que tu veux, comme tu es inspiré par le sujet de militaire depuis tout petit, est-ce que tu voudrais travailler dans ça en tant qu'ingé, t'engager dans cette thématique en tant qu'ingénieur? Je sais pas, il y a des petites startups qui font des trucs par rapport à ça. Je ne connais pas beaucoup.
Travailler dans l'armée, ça ne m'attirerait pas trop, personnellement. On a déjà essayé de me dire un peu tâter le terrain, en mode « ouais, tu pourrais peut-être venir ». Enfin, dès que j'ai dit que j'étais ingénieur, forcément, ça les attire un peu. Après, moi, pas tellement, parce que bah, déjà, tout simplement, d'un point de vue rémunération, c'est quand même encore très, très limite. C'est ce que me disait le supérieur qui me mentionnait ça, justement. Donc ça, je trouve ça un peu dommage, parce que c'est vrai qu'en dehors de ça... Je pense que ça peut être assez intéressant. Après, moi, j'avoue que être réserviste, ça m'a permis de vraiment voir que je n'aurais pas du tout été fait pour l'active, notamment le côté hiérarchie. Moi, je trouve ça vraiment bien, justement, le côté cadré. Mais par contre, c'est vrai que c'est un peu dur parfois à entendre, je ne sais pas, quand on me donne des ordres que tu ne trouves pas forcément cohérents ou quoi. Il faut quand même rester très, très solide dans sa tête et tout. Quand, en tant qu'ingénieur, on est quand même habitué à réfléchir, etc. Ça peut être un peu frustrant parfois. Donc, ouais, ces deux facettes-là, moi, ça m'attire pas forcément. Voilà.
Et justement, voilà, moi, je m'y connais pas. Peut-être que d'autres personnes qui nous écoutent s'y connaissent pas. Mais en tant qu'ingénieur militaire, je sais pas si ça se dit comme ça, bah, tu fais quoi foncièrement dans l'armée?
Honnêtement...
Le supérieur, voilà, il voulait t'accrocher pour que tu fasses quoi concrètement en tant que job?
Je crois qu'il m'avait parlé un peu de cybersécurité. Du coup, je lui avais dit que moi, c'était pas forcément mon domaine.
D'accord.
Après, je ne suis pas forcément renseigné sur ce sujet, mais j'imagine qu'il y a beaucoup bah, de tout ce qui est développement de l'armement, tout ce qui est la logistique aussi. Et après, bah moi notamment, un sujet qui pourrait éventuellement m'intéresser, c'est le côté aviation, parce que c'est à peu près dans ce domaine-là que j'aimerais travailler plus tard. Mais du coup, après, tu as différentes entreprises, notamment comme Dassault, qui en soi, c'est, si je ne me trompe pas, je pense que normalement c'est public, mais ils font quand même des armements pour l'armée, etc.
Oui, il y a des grandes entreprises, voire même des startups qui travaillent pour l'armée, mais qui sont en indépendant.
C'est ça, oui.
Maintenant, j'aime bien faire des rubriques dans mes interviews. Là, ça va être question des Français. Donc, je suis allée sur Google, tout simple, et j'ai mis les questions que se posent tous les Français au niveau du métier de réserviste. Bon, c'est un métier. Quel est le niveau de préparation et d'entraînement des réservistes?
Bah, du coup, comme je l'ai mentionné, il y a les deux semaines de formation initiale. Et après, du coup, il y a la participation au week-end de formation, où là, en fait, à chaque fois, il y a des révisions, notamment, encore une fois, maniement de l'arme, démonter l'arme, monter l'arme, tout ça.
Ok. Maintenant, moi, par exemple, si j'ai envie d'être réserviste demain, est-ce que, voilà, il faut quand même que je sache faire 10 pompes, soulever 50 kilos d'essai, je ne sais pas, quelles sont les attentes physiques?
Comme j'ai dit tout à l'heure, les attentes physiques, ce n'est pas non plus très exigeant. Donc, le minimum requis, entre guillemets, c'est de savoir un minimum courir, genre 8 km par exemple. Et après, il ne faut pas du tout être un athlète. C'est-à-dire que nous, il y en a qui avaient un peu plus de mal physiquement, qui ont quand même obtenu leur formation. Juste, c'était sous réserve qu'ils développent quand même une certaine attitude physique.
Quoi. Ok. Donc, en fait, là, donc t'es réserviste, t'es connoté un peu militaire, mais foncièrement, t'as pas cette aptitude physique que les militaires peuvent avoir, en fait,
sur le terrain. Voilà, parce que eux, notamment les militaires d'active, ils sont amenés donc à faire des missions à l'étranger. Donc forcément, il faut avoir vraiment... Enfin, ceux qui portent, je sais pas, 60 kilos toute la journée, forcément, il faut qu'ils soient un minimum. Voilà. Mais justement, c'est vrai qu'en tant que réserviste, comme je l'avais dit, ma mission au Triomphe, il faut quand même être apte à pouvoir porter une arme, un casque lourd, un gilet pare-balles pendant plusieurs heures. Donc, c'est vrai que ce côté-là, c'est directement l'application qu'on peut voir, quoi.
Ok, très bien. Et justement, tu l'as dit que le plus souvent, les réservistes étaient sur le territoire français. Quels sont les risques encourus en tant que réserviste en mission?
Tout simplement de se faire attaquer. Je sais que l'été dernier, je crois qu'il y a eu une attaque au couteau sur un réserviste, justement. Donc, c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'attaques contre les militaires. C'est vrai qu'ils se font souvent figure d'autorité. Je sais que ouais, il y a pas mal d'attaques du coup sur eux. Après, justement, ils sont là pour garantir la sécurité. Donc, ça, je dirais que c'est le risque principal. Après, il y a aussi tout simplement le risque d'attentat parce qu'ils sont pas là pour rien. Je pense que c'est les risques principaux. Après, en dehors de ça, dans la vie courante, je pense pas que ce soit. Je pense pas qu'il y ait une menace quelconque.
Ok. Et quel est le rôle, justement, tu as parlé de sécurité nationale, quel est le rôle des réservistes dans la sécurité nationale? Si on se place comme ça pour un groupe de sentinelles dans la rue, s'il se passe une grosse dinguerie, je sais pas, dans quel cas, eux, ils sont amenés à intervenir et qu'est-ce qu'ils font concrètement, quoi?
Du coup, c'est, en général, ils sont en trio. Donc, du coup, il y a deux... il y a un gradé et deux, entre guillemets... moins gradé, donc c'est-à-dire que c'est toujours au plus gradé de prendre la décision. Et du coup, après, je sais pas s'il y a un attentat une attaque quelconque, c'est un peu tout ce qu'on a pu réviser pendant les semaines de formation, etc. Après, je sais pas si je peux beaucoup détailler sur ça, justement. Il y a toute une procédure après qui est mise en place, et notamment la communication avec les autres équipes de réserve pour avoir des renforts, etc.
Donc, globalement, de garantir la sécurité en ville, quoi.
Tout à fait. Donc, notamment, on ne va pas engager le feu sur quelqu'un s'il y a des civils qui sont derrière ou quoi. Ça engendre beaucoup de choses, en fait.
Sinon, on peut se poser la question aussi, grosse question des Français, c'est est-ce que vous paradez le 14 juillet aux Champs-Élysées?
Ouais, y en a certains qui paradent parce que, du coup, le gouvernement veut vraiment mettre en avant l'engagement de certains civils dans la réserve, justement. Donc il y en a certains qui paradent. Après, je sais pas, honnêtement, je sais pas trop comment on postule, entre guillemets. Je sais pas trop comment ça marche. J'imagine que c'est peut-être, peut-être les réservistes qui appartiennent notamment à Saint-Cyr, où là il y a tous les étudiants qui paradent en général. En tout cas, moi j'ai pas encore fait.
D'accord, très bien. Peut-être autre question aussi, parce que tu parlais de c'est le plus gradé qui prend les décisions, etc. Comment ça marche, les grades? Donc, il y a des grades entre réservistes.
Ouais.
Et combien il y en a? Et si tu peux nous donner des noms pour qu'on sache, pour du culture G.
Du coup, ça commence avec les militaires du rang, donc le bas de la chaîne. Au début, il y a aussi les moquettes, on appelle ça. C'est quand, en fait, sur le... on n'a aucun grade, c'est-à-dire que c'est juste un espèce de scratch vert. Donc voilà. Et après, donc, on monte petit à petit les échelons. Après, il y a donc le soldat. Après, ça passe à caporal-chef. Après, on passe au sous-officier. Et donc là, on passe... Enfin, il y a notamment sergent, sergent-chef. Après, adjudant-chef. Et après, après major, etc. Et après, ça monte aux officiers. Donc du coup, c'est des catégories, en fait, à chaque fois qu'ils montent. Et donc, les officiers, il y a aspirant, lieutenant. Et puis après, petit à petit, ça monte jusqu'à colonel, commandant. Ça, c'est les plus hauts gradés, en général.
Ok, ça marche. Intéressant. On va parler, du coup, plus des enjeux dans la société du métier de réserviste. Comment, toi, tu perçois l'évolution du rôle de réserviste dans la société française?
Et du coup, on en parlait tout à l'heure, ouais, d'un point de vue notamment géopolitique actuel. C'est vrai que c'est un peu la crise en ce moment. Moi, je pense que déjà, le gouvernement veut, a l'objectif d'avoir pour, je crois que c'est 2030, enfin, dans quelques années, deux réservistes pour un militaire d'actif. C'est-à-dire augmenter considérablement le nombre de réservistes en France, notamment en faisant de la pub, etc. Donc du coup, j'imagine que les missions vont se diversifier s'il y a de plus en plus de réservistes. Après, d'un point de vue de la sécurité nationale, j'imagine que les missions ne vont pas tellement changer. Je pense que tout ce qui est sentinelle, etc., ça va quand même rester la mission principale du réserviste. Après, comment évolue comment évolue le contexte géopolitique. Je ne sais pas s'il y a une troisième guerre mondiale. J'imagine qu'on sera peut-être un peu plus sollicité qu'actuellement. Mais je pense que ça va à peu près rester les mêmes missions. Oui.
Ok, très bien. Et selon toi, bah, quels sont les défis auxquels tu es confronté en tant que réserviste aujourd'hui?
J'en vois pas tellement.
C'est bien.
Ouais, je sais pas si. Ouais, je pense pas qu'on puisse parler de. Après, ça dépend de chacun, forcément. Mais. Non, après, éventuellement, l'acceptation. C'est vrai que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les gens ont peut-être un peu du mal à accepter quand y a des rondes dans les rues, etc. Ça peut être effrayé. Mais c'est vrai qu'on a, ouais, on a tendance à oublier qu'ils sont là vraiment pour la sécurité nationale. Et voilà.
Et justement, là, j'aurais pu le mettre dans la rubrique « Questions des Français », mais c'est quelque chose que j'ai vu passer, c'est que le contexte géopolitique n'est pas très, on va dire, positif. Du moins, il y a des enjeux qui se passent et les Français se posent beaucoup de questions sur l'avenir, si effectivement il y avait peut-être une troisième guerre mondiale, on ne sait pas. Est-ce que, du jour au lendemain, le président de la République pourrait rétorquer qu'à partir de 17-18 ans, tous les hommes partent à la guerre est-ce que ça serait le cas ou est-ce que on demanderait déjà aux personnes qui sont un peu plus formées, comment ça se passe? Est-ce que tu le sais?
Honnêtement, je ne sais pas trop. Après... En tout cas, les réservistes, c'est toujours sur la base du volontariat. Donc, après, c'est sûr que s'il y avait une troisième guerre mondiale, j'imagine que les réservistes seraient quand même... ou au moins auraient une formation accélérée, étant donné qu'on a quand même...
Des bases.
Plus que des bases, ouais, entre guillemets. Après, oui, c'est sûr que, comme on l'a vu pour la première et la deuxième guerre mondiale, ils envoient tout le monde, quoi, dans tous les cas. Donc, je pense qu'on serait... Enfin, en cas vraiment de crise majeure, je pense qu'on serait à peu près sur le même piédestal que d'autres civils, quoi.
Selon toi, l'apport d'être réserviste au niveau de la sécurité nationale, on en a parlé, et surtout aussi de la cohésion nationale, comment tu le vois? Tu l'as dit, le fait de voir un peu des sentinelles dans la rue, ça peut effrayer les Français. Comment toi, tu le vois? C'est quoi ta vision? Et peut-être une question qui peut plus te permettre d'y réfléchir, c'est quelle image de la réserve souhaites-tu transmettre au grand public? C'est-à-dire, quand tu es en mission, qu'est-ce que tu as envie qu'ils disent de toi, ce genre de choses?
Oui, du coup, comme on l'a évoqué, ne pas être effrayé, parce que finalement, on est vraiment humain avant tout. Et l'image, moi, c'est que c'est vraiment accessible à tous. Vraiment, pour ceux qui veulent un peu découvrir ce milieu, c'est... Voilà, nous, il y avait des jeunes comme des plus vieux, ceux qui avaient déjà un métier depuis des années, qui avaient des enfants, etc. Donc, c'est vraiment accessible à tous. Et c'est peut-être un peu cliché, mais c'est vraiment un peu une famille. C'est-à-dire que moi, je me suis fait vraiment des super bons amis, un peu dans la difficulté de la formation initiale. Et donc, ça, c'est vraiment un bon point. Et ouais, il y a vraiment ce côté cohésion. C'est-à-dire que même dans les week-ends de formation... où on arrive et qu'on ne connaisse pas forcément tout le monde, y a vraiment ce côté entraide qui est vraiment mis en avant dans l'armée. C'est-à-dire que si tu n'entraides pas ton prochain, on te le reproche directement, quoi. Donc, c'est vraiment l'aspect principal, moi, que je mettrai en avant.
Ok, très bien. Je vais te donner le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi tes objectifs?
Eh bien, d'avoir mon diplôme d'ingénieur dans le domaine que j'aimerais bien, c'est-à-dire l'aéronautique ou l'aérospatiale. Si j'ai encore du temps à y consacrer, continuer la réserve et faire d'autres missions.
Ok, on te le souhaite. Merci beaucoup, Pierre-Baptiste. J'ai trouvé ce podcast super intéressant. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi. J'espère que cela a plu aussi à nos auditeurs également. Et j'espère que cela vous a plu et que vous pourrez mettre un commentaire sur ce que vous avez pensé ou si vous voulez discuter avec nous. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast car plein d'interviews de nos jeunes arrivent très vite. À plus !